février 1984, cours d'éthique, Père Philippe Saint-Joseph.
Si la vertu de prudence est au niveau de l'intention, du choix et de l'imperium, peut-on dire que la vertu de force est beaucoup plus du côté de l'imperium? D'une manière générale, peut-on dire que l'irascible est plus lui-même dans l'imperium et le concupiscible dans l'intention? Cela ne vient-il pas du fait que l'irascible s'exprime alors que le concupiscible désire? Il y a un petit quelque chose de vrai, hein, comme toujours, c'est sûr. On va essayer de comprendre. C'est un peu une manière stoïcienne de regarder les vertus. Comme je ne sais pas c'est qui, je peux le dire. C'est une manière stoïcienne de regarder les vertus, parce que c'est regarder un peu l'exercice. Du côté de l'exercice, c'est vrai. Du côté de l'exercice, il y a quelque chose de juste. Mais si on fait une analyse du côté de l'objet, c'est assez délicat. On va essayer de le voir, parce que c'est intéressant ça, parce que c'est plus proche d'une certaine manière de la pensée psychologique moderne. C'est de regarder le point de vue de l'exercice, plus que le point de vue de l'objet. Oui. Faisons, nous, une analyse philosophique en essayant de préciser ce qui spécifie telle activité humaine. Ce qui spécifie telle vertu. Alors, on regarde les différents exercices de la prudence. Mais qu'est-ce qui fait l'unité? La prudence est une. Il y a trois manières de s'exercer. Mais elle est une. Alors, quel est l'objet propre de la prudence? L'objet propre de la prudence, c'est justement cette raison droite qui ordonne notre appétit en vue de la fin. Et cette raison droite qui ordonne notre appétit en vue de la fin va de fait s'exercer à trois niveaux différents. Mais il y a une unité dans la vertu de prudence. Qu'est-ce qui fait l'unité de la justice? Nous avons vu, il y a une justice distributive, une justice commutative, une justice légale. Et c'est tout ça, c'est la justice. La justice regarde le droit, le jus. Et nous avons vu que ce n'est pas commode du tout de savoir ce que c'est que le jus. Demander aux juristes, ils font du droit sans savoir ce que c'est que le droit. Habituellement, c'est comme ça, pas ceux qui sont entrés dans la communauté. Mais ordinairement, ils font du droit sans savoir ce que c'est que le droit. Pendant des années, ils font du droit. Qu'est-ce que c'est que le jus? Très difficile de savoir ce que c'est que le jus. Comment la personne humaine est-elle le lieu du droit? La personne humaine a des droits. Vous avez des droits. Quand vous dites ça, quand on vous laisse dans vos droits, vous savez très bien revendiquer. Et puis on vous dit, mais qu'est-ce que c'est que votre droit? Ah. Vous avez mis un mot cacher une réalité que vous comprenez. Qu'est-ce que c'est que le droit? C'est vrai que c'est très difficile à préciser exactement ce que c'est que le droit. J'ai des droits. J'ai un droit à vivre. J'ai un droit à choisir mes amis. Je ne peux pas vous imposer. Mon cher, tu aimeras telle personne hein, comme ton ami. On ne peut pas vous imposer, parce que l'amitié relève d'un choix libre, on ne peut pas l'imposer. Et il y a un droit à l'amitié, comme il y a un droit à se nourrir. Est-ce qu'il y a un droit au sommeil? Oui, vous avez un droit au sommeil, c'est sûr, parce que vous avez un droit à être en bonne santé. La santé, on a un droit. Et ainsi de suite, il y a toute une série de droits. Alors, qu'est-ce que c'est que ce droit? très difficile à préciser. Nous avons essayé de le préciser, mais ce n'est pas commode du tout. Hein. Aux examens, je vous demanderai qu'est-ce que c'est que le droit. Hein. J'aurais des exemples, exactement comme quand vous demandez qu'est-ce que c'est que l'inconscient. Chez un freudien, il vous donne des exemples. Mais il ne sait pas ce que c'est. Et la plupart du temps, on donne des exemples, mais on ne sait pas ce que c'est que le droit. Je crois que pour qu'il y ait droit, il faut qu'il y ait finalité. Et que vous regardez le lien entre le moyen et la finalité. Le moyen, c'est-à-dire l'opération humaine et la finalité. C'est à l'intérieur de la finalité qu'il y a un droit. C'est pour ça que seul celui qui a une finalité peut avoir un droit. Et c'est toujours lié à la finalité. Alors le jour, vous voyez, où on ne regarde plus la finalité, comme la plupart du temps des juristes, ils ne regardent plus la finalité, alors il n'y a plus qu'un droit positif. Il donne le droit positif qui est défini par les lois. Et le droit positif étant défini par les droits, mais le droit positif, il est toujours second, il n'est jamais premier. Il y a un droit naturel. Et le droit naturel, justement, lui, ne peut regarder que la finalité. Et il est précisé par le point de vue légal. Le droit légal vient préciser le droit naturel. Et le droit naturel, j'ai un droit naturel à vivre, indépendamment de la loi. J'ai un droit naturel à vivre, indépendamment de la loi. La loi viendra défendre ma possibilité de vivre, c'est bien évident. Mais autrement, mon droit naturel demeure. Le droit positif vient toujours en second lieu. Il présuppose toujours un droit naturel. Et quelquefois, le droit positif n'est plus un droit positif quand justement il va contre le droit naturel. Une loi qui est inique va contre le droit naturel et donc ne me donne pas un droit positif. Puisque ce n'est plus un droit. Et pour discerner où il y a un droit naturel, où il y a un droit positif légitime, il faut le droit naturel. Et comprendre ce que c'est que le droit naturel. Et c'est très difficile de comprendre ce que c'est que le droit naturel. Pour comprendre ce que c'est que le droit naturel, il faut découvrir ma finalité profonde. Ma finalité humaine. Je crois qu'on ne peut pas le découvrir autrement. Donc la justice regarde le droit. Et essayer de préciser ce que c'est que le droit. À partir de la finalité, à partir de l'amour, nous saisissons les moyens qui sont en conformité avec cette finalité. Les moyens nécessaires. Pas les moyens libres, les moyens nécessaires. Autrement, sans quoi je ne pourrais pas atteindre la finalité. Vous voyez ? Alors là, peut-être, vous trouveriez, vous voyez, le point de vue le point de vue de la condition sine qua non, qui si facilement remplace la causalité. La condition sine qua non. Je ne peux pas atteindre cette finalité sans qu'il y ait ça. Et alors, le droit serait de ce côté-là à saisir. C'est ce qui est exigé pour atteindre ma finalité. Ce qui m'est prescrit pour atteindre ma finalité. Ce qui est nécessaire pour atteindre ma finalité. Condition sine qua non pour atteindre la finalité. Alors, il y a à partir de là quelque chose qui en moi se précise, c'est mon droit. Parce que je suis ordonné à ma finalité. Et que sans ça, je ne pourrais pas atteindre ma finalité. Alors, c'est le droit est précisé par là, par la condition sine qua non. Mais ce n'est pas la causalité. C'est une condition sine qua non, comme une espèce de forme a priori, hein, qui vient permettre, dans l'ordre pratique, d'atteindre ma fin. Et de devoir atteindre ma fin. Quelque chose comme ça, qui est très difficile à préciser. Bon, alors, la vertu de force. Qu'est-ce que regarde la vertu de force ? La vertu de force s'enracine dans l'irascible. Là, nous l'avions vu la dernière fois. Très important de bien comprendre cela. La vertu de force s'enracine dans l'irascible. À l'irascible qui est un irascible humain. C'est évident qu'il n'y a pas de vertu de force chez le chien. Vous dressez le chien, le dressage du chien ne lui donne pas des vertus. genre entre l'éducation et le dressage. Monod disait dans les rencontres internationales de Genève, c'est la même chose le dressage et l'éducation. Dresser un chat à être propre, c'est la même chose que d'éduquer un enfant. C'est très intéressant de mettre le parallélisme entre les deux, pour bien saisir la différence entre le dressage qui vous donne des dispositions. C'est très vrai, quand on dresse un animal, vous dressez son irascible. Vous savez bien, ceux qui ont connu Vénus. Alors, le père Monténard disait certains mots, et Vénus se mettait à aboyer. Alors, il y avait l'irascible qui était éveillé à partir d'un mot particulier qui éveillait en lui, il se mettait à aboyer. Alors, on voyait très très bien ça, le lien. C'est uniquement une espèce de conditionnement qui se fait, et un conditionnement d'ordre psychologique qui fait qu'un appel immédiatement éveille autre chose. Il suffit de faire les liens. Et petit à petit, quand le lien est fait, alors on a un dressage. Le dressage, c'est faire du tricot. Dans le point de vue de l'irascible et du concupiscible. Et vous faites des liens. Faites des nœuds. Et vous faites des nœuds, alors vous avez des dispositions pour orienter vers. Et dès que vous dites quelque chose, immédiatement, vous avez la réponse. C'est pas vertueux. Non, c'est l'ordre de la disposition. Tandis que la vertu fait comme irascible, participe à la raison. Participe à la prudence. Pour participer à la prudence, vous participez à la raison. Donc l'irascible humain, c'est un irascible qui est sous à l'ombre de la raison, à l'ombre de la prudence. Et donc il est lui-même transformé. Et par le fait même, cet irascible a la capacité d'être orienté vers la fin, vers la fin humaine. Par là, il peut s'orienter vers ma fin humaine, ma fin dernière, ma fin humaine, c'est-à-dire ma contemplation, l'amitié. Il peut s'orienter vers sa grâce et sa participation. Mais il peut aussi ne pas écouter cette participation et aller en sens inverse. Autrement dit, pour qu'il y ait vertu, nous l'avons déjà vu, pour qu'il y ait acquisition de l'habitude, il faut une indétermination du sujet. Un sujet parfaitement déterminé à de nous, ne peut pas acquérir des vertus. Pour acquérir des vertus, il faut nécessairement une certaine indétermination. Alors, l'irascible, participant à la raison, et la raison transformée par la prudence, va pouvoir s'ordonner vers ma fin. Mais comme il peut aussi ne pas être docile à la raison et s'orienter tout simplement vers un bien ardu, je me mets en colère devant un bien ardu, et ça peut être très bien à ce moment-là un obstacle à la fin. Il peut y avoir très bien les deux. Mon irascible n'est pas déterminé à du nous. L'irascible du chien est beaucoup plus déterminé. Et avec le dressage, vous faites un transfert. C'est ça le dressage. Hein. C'est opérer des transferts qui ne sont pas naturels du tout. Parce que quand vous faites aboyer le chien en disant telle parole particulière, ce n'est pas naturel, c'est purement artificiel. C'est objet de cirque. Et c'est pour ça que de rire, tu vois, parce que c'est un objectif, c'est un numéro, si vous voulez. Tandis que quand le chien se met à aboyer devant simplement un danger naturel, c'est pas un objectif. Le dressage, c'est très bien, mais au point de vue du comique, il y a un transfert. C'est un transfert que vous avez opéré, qui fait qu'il aboie pour une autre finalité, et une finalité qui n'en est pas une. Une finalité purement apparente, il n'y en a pas. Alors, lorsque vous mettez l'iracie en participant à la raison, il en oublie. Et comme il pourrait très bien ne pas rester, il a besoin d'une vertu. L'iracie du chien n'a pas besoin de vertu. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas ennobli par la raison. L'iracie de l'homme a besoin d'une vertu. Parce qu'il est ennobli pour être toujours ennobli par la raison. Il est toujours conforme à la raison. Et donc, être en conformité avec ma fin contemplative ou mon amitié. C'est vrai qu'un iracie non éduqué, c'est-à-dire non vertueux, peut être quelque chose de terrible au point de vue de la finalité, au point de vue de la finalité d'amitié. C'est pas drôle de vivre avec quelqu'un qui ne cesse d'être en colère pour un oui ou un non. On ne sait jamais exactement, tu vois, parce que c'est bien ardu, il se met en colère tout de suite. Alors, il ne décolère pas de la journée. Mais quand quelqu'un ne décolère pas de la journée, vous savez, c'est très difficile la vie commune. On se met loin pour ne pas se faire mordre. C'est évident. Alors, à ce moment-là, l'iracide empêche le point de vue de la vie commune. Ça arrête le point de vue de la vie commune. Tandis qu'au contraire, s'il y a une vertu de force, c'est la vertu de force. Alors, vous avez un irascible qui se maintient en dépendance de la prudence. Et vous savez très bien, intérieurement, ça chauffe, ça boue, personne ne le voit. Ah, la vertu, regardez comme il est fort. Intérieurement, et non seulement rien de ça, si le vertueux, petit à petit, le bouillonnement des racines va lui permettre d'aimer plus. Ça, c'est la vertu consolée. Le bouillonnement des racines permet d'atteindre davantage le point de vue de la finalité. Parce qu'on pourrait très bien, vous voyez, quand il n'y a pas de vertu, mais il y a quand même une certaine éducation, donc un dressage. Il y a un obex. Je sais que ce n'est pas bien de me mettre en colère et de dire certains gros mots. Parce que c'est très curieux que quand on est en colère, tout le vocabulaire change. C'est très curieux. C'est quelque chose d'assez spécial, assez particulier. Il y a des liens particuliers, ça a été dit avec le langage. Comment se fait-il que l'iracine, parce que quand on se met en colère, vous voyez, on a besoin d'être regardé. Et c'est pour ça que vous dites des gros mots. Surtout lorsque d'habitude vous n'en dites pas. Alors à ce moment-là, tout le monde regarde. Si vous êtes habitué d'en dire tout le temps, on dit oh, on sait. Tandis que quand on n'est pas habitué, qu'on a été bien dressé, qu'on des mots qu'on ne dit pas. Alors, c'est curieux que tout d'un coup, quand c'est en colère, ça ressemble. Très curieux, c'est très étonnant. Ça, c'est lié à l'iracide. L'iracide est comme ça. L'iracide aime de se manifester. Et il se manifeste. Il se manifeste en brisant, en faisant du bruit. Surtout si on ne regarde pas. Quelqu'un qui est en colère et vous ne le regardez pas, vous pouvez être sûr qu'il va faire un de ses pas de temps, plus possible, parce qu'il veut être regardé. L'iracide se manifeste, il a besoin de se manifester, il a besoin de dire, il a besoin de frapper, il a besoin de détruire. C'est quelque chose de très très cruel. Alors, l'éducation permettant de fait de ne pas manifester à l'extérieur, ça boue à l'intérieur. Et de temps en temps, ça éclate. C'est le volcan. Hein, c'est l'aspect volcanique étant dans ce sens. J'en suis. Toutes les comparaisons avec le point de vue volcanique. Et puis je vous ai dit de lire la description de Sénèque sur la colère, le délire de Sénèque. Il faut au moins avoir lu ça une fois dans sa vie. C'est facile à lire. C'est très facile, c'est du Sénèque. Et comme il y a une bonne traduction, c'est facile à lire. En latin, ce serait un peu plus difficile. Parce que Sénèque est déjà un peu plus subtil. Il y a le Deira Tzedek. Le Deira, là, comprenons bien, on est en face d'un stoïcien qui considère que l'irascible est à détruire. Nous ne disons pas ça, l'irascible est bon. C'est une force de défense. Et on en a besoin. C'est un sort de défense. Et quand on est trop fatigué, alors il n'y a plus d'irascible. Les psychanalystes, ça m'a toujours beaucoup frappé. Les psychanalystes considèrent que le malade commence à reprendre du poil de la bête quand il recommence à avoir des colères. Donc c'est un signe de bonne santé. Disons, pas trop, mais de temps en temps. La colère qui arrive un peu régulièrement, si vous voulez, c'est un signe de bonne santé. Tant qu'on est capable de se mettre en colère, ça prouve que ça ne va pas trop mal. N'est-ce pas ? Pas trop, mais un tout petit peu. Ça prouve que ça ne va pas trop mal. Tandis que si on ne se met plus du tout en colère, on est en dessous du niveau de la mer. Alors c'est la dépression. C'est très curieux. C'est un signe, l'irascible, c'est un signe de santé. On a besoin de ça. C'est la sève qui monte. Hein. C'est la sève qui monte et qui monte de temps en temps un peu trop impétueusement, mais qui monte. Alors il faut la vertu de force dans l'irascible pour ennoblir l'irascible et permettre à l'irascible d'être toujours lié à la prudence. Et par la vertu de force, la prudence va pouvoir régler, mesurer l'irascible. Le mesurer en fonction de l'amour d'amitié, en fonction de la contemplation. L'irascible regarde donc le bien ardu. La vertu de force va regarder elle aussi le bien ardu. Mais le bien ardu entend qu'il est en conformité avec la fin. Donc elle va utiliser ce bien ardu. C'est pour ça que les deux grands actes de la vertu de force, c'est d'une part la patience et d'autre part l'agrédit. Alors comprenez bien, l'agrédit, c'est attaquer. Attaquer quand vous êtes en face de quelque chose qui vous empêche d'atteindre votre bien ardu, ce bien difficile. Ardu, c'est bien difficile. C'est bien difficile. On cherche le bien difficile. Alors, la vertu de force va donc permettre à l'irascible de s'orienter vers le point de vue sympa en attaquant au bon moment où il faut attaquer. La grille. On montre qu'on a des dents. Parce que les dents sont toujours le symbole de la force. Il ne faut pas l'oublier. C'est les dents qui expriment le déchet d'avoir de bonnes dents. Quand ça s'enfonce comme dans du beurre, là, ça vaut que les dents ne sont plus non plus très solides et qu'il y a des chances que votre irascible ne soit pas très fort. Alors c'est la mollasse, ça va plus. C'est quelque chose qui tient. Alors, il faut bien comprendre que la première manifestation de la vertu de force, c'est d'attaquer au bon moment. L'agrédit. On attaque. Parce que c'est un bien difficile, il y a des ennemis, il y a bien difficile. On attaque au bon moment. Et il y a quelque chose de plus profond dans la vertu de force, c'est la patience. La patience consiste à attendre. Et à attendre longuement, même s'il faut attendre longuement. C'est de subir. C'est de pâtir. On sent très bien ça. On sent très bien les deux mouvements d'agrédit et de la patience. Est-ce qu'il faut dire quelque chose? Est-ce qu'il faut attaquer? Est-ce qu'il faut... Non, attends. Il y a l'ange gardien qui vous dit attends. La patience. Demain, ça vaudra mieux. Et puis alors, on attend le lendemain. Alors, si on est vertueux, on a dominé un tout petit peu. Ça s'est calmé. Parce que l'irascible, c'est la soupe au lait. Hein. Ça va très très loin. Alors, il faut essayer de comprendre, encore ici, le point de vue de l'imaginaire. Alors ça, ce serait très intéressant de regarder l'imaginaire et l'irascible. l'imaginaire corrompt l'irascible. Et le point de vue de la vertu de force permet à la prudence, qui est donc l'intelligence rectifiée, l'intelligence pratique rectifiée, la raison droite, d'éclairer l'irascible et de permettre à l'irascible d'être lucide. Et donc de ne pas se laisser enténébrer par l'imaginaire. Parce que l'irascible enténébré par l'imaginaire, c'est extrêmement curieux. C'est celui qui ne décolère pas. Et c'est celui qui non seulement ne décolère pas, mais cherche exprès des situations difficiles pour manifester sa colère. Alors ça, c'est le con. Et ça existe, ça existe. Des gens qui cherchent des situations difficiles, exprès, ils mettront en présence des gens qui savent qu'ils ne se comprennent pas, qui ne s'aiment pas. Alors ils les mettront exprès en présence. Et ils sont toujours là au bon moment pour augmenter la lutte. Oui, on augmente la lutte. Parce que plus la lutte est forte, plus on peut manifester sa colère. Ça, c'est imaginaire. C'est pas vertueux du tout, hein. Parce que la vertu consiste au contraire à faire que chacun cherche son bien. Mais on cherche. Alors oui, ça peut très bien prendre le point de vue de l'imaginaire et s'allier aussi avec l'art. Alors c'est des agences très curieuses. Les gens qui ont un certain sens poétique et artistique. Ils aiment le drame. Quand il n'y a pas de drame, rien ne va. Ils aiment le drame. Le drame est quelque chose de merveilleux, étonnant. Vous voyez, on attise le drame. On voudrait qu'il y en a qui sont pacifiques. Mais il y a des personnes qui attisent, qui augmentent le drame. Parce que quand il n'y a pas de drame, c'est ennuyeux. Le quotidien est ennuyeux. Tandis que quand il y a du drame, ça va. On s'éveille. Ça, c'est l'irascible lié à l'imaginaire et à l'imaginaire artistique. Plus ou moins fort, le point de vue artistique. C'est plus ou moins intelligent. C'est plus ou moins intelligent, quelquefois c'est purement imaginaire. Quand c'est quelque chose d'un peu plus noble, alors il n'y a pas de là. Donc les racines et le lieu de la vertu, de l'imaginaire et de l'art. Tout cela dans notre imaginaire. Pour chacun d'entre nous, il y a les trois. Et si vous êtes très vertueux, tout votre imaginaire va être pompé par votre vertu de force. Et donc relié à la prudence. Si vous êtes très artiste, votre imaginaire va être orienté vers le point de vue de votre irascible va être saisi par l'imaginaire et par le point de vue artistique. Et vous ferez de tout un drame. Chaque journée vécue dans la vie commune peut-être l'objet d'un drame, au point de vue poétique, bien évident. C'est chaque jour, vous pouvez en faire un drame. Alors voyez, le nombre de drames pendant l'année. C'est vraiment poète. Et les comédiens, parce que ça peut se tourner dans la comédie, ça peut se tourner dans le drame, la tragédie. Alors on montre le côté tragique de l'homme religieux, fanatique. Parce qu'il est toujours un peu fanatique l'homme religieux. Toujours. C'est différent, c'est pas la même chose l'homme religieux. Le contemplatif n'est pas fanatique. Mais l'homme religieux peut être fanatique. Et alors, le point de vue de la vertu qui devient fanatique par l'irascible. Le fanatisme religieux, c'est l'irascible. Ça, on en voit des exemples aujourd'hui, hein, qui sont fameux, de voir le fanatisme religieux. Certains hommes politiques, c'est. Toutes les guerres de religion, c'est du fanatisme. Il peut y avoir au point de départ des choses très très belles, puis ça se trouve au fanatisme. À ce moment-là, vous avez bien l'irascible qui est lié, vous voyez, à l'imaginaire et qui est plus ou moins artistique, où on cherche à dominer. C'est très important. L'irascible joue un rôle très très important dans notre vie. Il ne faut pas le briser. Briser l'irascible, c'est jamais bon. Quelquefois, on a eu l'irascible brisé au point de vue éducatif. Hein. On a eu les racines, parce qu'on a eu un père trop autoritaire. Il a cru bien faire. On a eu un père trop autoritaire. Alors il a cassé successivement toutes nos côtes, hein, notre manière d'être un peu de debout. Et alors il nous a mis dans un état où on n'a plus une possibilité de se tenir droit. Spirituellement, moralement, psychologiquement. On n'avait plus assez de défense. Un père trop autoritaire empêche la défense. Parce que quand on est jeune, on ne peut pas. Alors on est étouffé. Et alors, quand l'irascible est complètement supprimé, il manque, vous comprenez bien, pour la vérité de force, il manque un soubassement. Il faut quand même que l'irascible soit suffisamment évolué pour que la vertu de force puisse s'enraciner. Autrement, il n'y a plus de vertu de force et vous avez des gens qui n'ont plus la force. Alors, c'est très difficile, ordinairement, de bien voir la différence qui peut exister en nous entre l'aspect de la volonté et de la force. Alors là, c'est intéressant aussi à voir. Et c'est peut-être là où on verrait la petite remarque qui est mise ici. C'est que c'est très vrai que pour passer à l'imperium, il faut de la force. Le volontaire, l'acte volontaire, n'est pas accompagné de la force. Mais évidemment, le volontaire est plus que la force. Donc un homme de volonté, de grande volonté, ordinairement, est un homme qui a développé en lui la vertu de force. Et c'est par le fait même quelqu'un qui est capable de passer à l'exécution. Parce que pour passer à l'exécution, il faut ordinairement être fort. C'est pour ça que des intellectuels un peu fatigués, des intellectuels qui ont développé énormément leur intelligence, qui ont développé beaucoup leur intelligence, qui par le fait même ont moins développé leur volonté, sauf si vous avez affaire à des intellectuels qui restent des hommes et qui ont développé leur, en même temps leur volonté. Autrement, si vous êtes des intellectuels un peu cérébraux, qui sont tombés dans des idéologies, alors à ce moment-là, leur intelligence s'est développée indépendamment de leur volonté et indépendamment de la vertu de force. Alors vous avez une très belle idée, des idées magnifiques, des choses étonnantes, mais quand il s'agit de passer à l'action, personne. Il manque la vertu de force. Pour passer à l'exécution, il faut la vertu de force et la volonté. D'abord la volonté. Là, la vertu de force joue un rôle très important pour passer à l'exécution. Alors, vous voyez, on pourrait regarder hein, toutes les maladies irascibles. Les maladies irascibles, je dis, c'est tout le temps ne jamais décolorer, toujours être en colère, toujours être quelqu'un qui ne cesse d'être en colère, c'est une maladie irascible, ça. Et puis, la maladie irascible, c'est aussi être un ressort cassé. Il y a les deux. Un ressort cassé, impossible. Vous pouvez marcher sur ses pieds, il ne se mettra jamais en colère. Et vous direz, ah, comme il est doux. Mais non, il m'en dira aussi. C'est deux choses différentes. La douceur, c'est pas un manque d'irascible. La douceur, c'est une très grande force. Parce que ça peut suivre la patience. Et la douceur, c'est toujours assez de force. C'est pour ça qu'ordinairement, c'est les gens qui ont un très bon irascible et beaucoup de force qui sont les plus doux. Et dans l'écriture, c'est très net comme exemple. On dit de Moïse qu'il fut l'homme le plus doux qui soit au monde. Or, il nous est montré de Moïse hein, un acte pas mal de colère quand il est en face de l'Égyptien qui a méprisé l'hébreu. Et Moïse était là, il a fait ni une ni deux. Premier geste qu'on voit de Moïse. Dès qu'il a quitté l'éducation d'Égyptien, du pharaon, dès qu'il a quitté ça, immédiatement, on le voit qu'à ce moment-là, il tue l'Égyptien. Il le met dans le sang. C'est un geste de colère. rien, j'en sais rien, parce que c'est l'Ancien Testament, ça pouvait être ça. Mais c'est dur, c'est un geste de colère. Il a dégringolé l'adversaire, il l'a supprimé, il l'a rejeté. Et puis, ensuite, il est devenu l'homme le plus doux qui soit au monde. Saint François de Sales, c'est la même chose. Il était très, très colérique. Il avait un très bon irascible. Et il est devenu un homme très doux. Mais la douceur vient, elle est liée à la force. Elle est liée à la force. Elle permet à la force de s'exercer d'une manière patiente. Il faut être très patient pour être doux. Très patient. On le sent bien. Et il sent que c'est des racines au service de la fidélité. Donc voilà la vertu de force. C'est quelque chose de très grand, la vertu de force. Vous voyez, c'est évident, c'est une vertu qui est beaucoup moins noble que la justice. C'est une vertu qui est beaucoup moins noble que la prudence, puisque c'est une vertu qui est dans l'ordre sensible. Mais la vertu de force fait le passage du sensible au spirituel. C'est ça qu'il y a de si étonnant dans la vertu de force. C'est le passage du sensible. C'est pour ça que, d'une certaine manière, elle est tellement proche du point de vue psychologique. Elle est proche du point de vue psychologique à cause de l'irascible. Par l'irascible. Alors elle est très proche. Le concupiscible. Les deux sont toujours liés. Le concupiscible est plus fondamental que l'irascible. Puisque pour qu'il y ait irascible, il faut qu'il y ait concupiscible. Le concupiscible, c'est le point de départ de l'amour de passion. Or, il n'y a pas d'irascible sans concupiscible. Vous ne vous mettez jamais en colère sans qu'il y ait un amour blessé. S'il n'y avait pas d'amour, vous ne vous mettriez jamais en colère. Vous êtes quelqu'un qui se met en colère, il y a toujours d'espérance. Parce qu'on dit, bon, c'est bon qu'il a un grand amour. Et c'est pour ça qu'il se met en colère. Il n'est pas indifférent. Parce que quand on est en face de quelqu'un qui est indifférent, tout le monde avance. On a beau le piquer en tous les sens, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il n'y a plus rien. Alors vous ne savez pas ce que vous pouvez en faire. C'est vraiment, on ne sait plus. On ne sait plus par quelle boule prendre. Tandis qu'au contraire, quand il y a des racines, on peut toujours. Les racines sont toujours liées à l'amour. Mais l'amour n'est pas lié à des racines. Il faut bien comprendre. Toujours la même chose pour bien distinguer les racines et le concupiscible, en comprenant que toute irascible présuppose le concupiscible, mais le concupiscible se définit par lui-même, sans se définir par les racines. Le concupiscible, de même, participe à la raison. Notre concupiscible, à la différence du concupiscible du chat. Le choc est purement instinctif. Il est déterminé à nous. Tandis que le concupiscible de l'homme n'est pas déterminé à nous. Il participe à l'imaginaire. Il participe à l'âme. Notre concupiscible participe à l'imaginaire. Alors ça, c'est tout ce que Freud a essayé de regarder. C'est le concupiscible lié à l'imaginaire qui fait comprendre la complexité extraordinaire du concupiscible. Et lié à par l'imaginaire, il peut rejoindre l'instinct. Il peut déformer l'instinct. Parce qu'il peut faire que l'instinct, à la place d'être déterminé à de nous, est déterminé à moi, à mon plaisir. Et alors à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un détournement du concupiscible par l'imaginaire. Et par l'instinct. Et il y a un non-emblissement du concupiscible par le point de vue de la participation de la raison. Et parce que le concupiscible peut ou bien se laisser orienter vers l'imaginaire, ou se laisser prendre par le point de vue de la participation de la raison, il y a donc une indétermination qui réclame une vertu. La vertu qui vient ennoblir le concupiscible, c'est la prudence. Vous comprenez que la tempérance est moins noble que la force. La force est une noblesse plus grande. Parce que la force qui vient ennoblir l'irascible est plus proche de la raison. C'est plus proche. Tandis qu'au contraire, la tempérance, c'est ce qu'il y a de plus bas comme vertu. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas noble, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus bas comme vertu. C'est la vertu, j'allais dire, la plus élémentaire. La tempérance. C'est la vertu la plus élémentaire. La première éducation qu'on fait, c'est toujours du côté de la tempérance. Toujours. À l'égard de l'aliment. À l'égard de la boisson. C'est comme ça que vous éduquez un enfant. Vous essayez de faire qu'il mange à des heures déterminées. Hein, c'est comme ça qu'on fait. Biberon, il doit être à des heures bien déterminées. Parce que si, justement, vous ne déterminez pas de cette manière-là, vous éduquez le caprice. Dès qu'il y a le moindre désir, immédiatement, un bout de chocolat. La sucette, hein, c'est cette chose invraisemblable, hein, qui vient l'anti-vertu de tempérance. Hein. C'est exactement ça. On a toujours besoin. Alors, il y a des sucettes très perfectionnées pour l'homme qui est. La sucette, c'est immédiatement, dès qu'il y a un éveil du concupiscible, il faut immédiatement le satisfaire. Alors vous le satisfaites, on le satisfait par n'importe quoi, l'herzas. L'herzas du biberon, c'est la sucette. Moi, ça mérite un plan, mais je ne peux pas. Irritant. Une fois que vous avez compris ce que c'était, vous avez envie de dire, mais on va renvoyer prendre. Et pourquoi on donne ça? Ah, pour qu'il ne crie pas, petit. Ben oui, mais c'est lamentable, quoi. Pour qu'il ne crie pas, je comprends. C'est, la mère désire être un peu tranquille. Mais c'est pas ça, éduquer. On est au service de l'enfant. Et en fait, petit détournement. C'est le premier détournement qu'on fait. Parce que c'est à la place de donner l'appétit et d'en donner un bien sensible, viens, on le détourne. On le détourne, on fait que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et qui est tout simplement pour que les gens autour soient tranquilles et que le concupiscible se taise. Alors, une petite nourriture. Vous savez, dans certains endroits, ça va très loin. On plonge la sucette dans de l'alcool pour que l'enfant se taise encore. Et c'est comme ça qu'on a lutté beaucoup. Il y a une cinquantaine d'années, ça existait encore beaucoup. Maintenant, ça existe moins. Disait que dans la Saint-Gilles, c'était comme ça qu'on éduquait les gosses, parce qu'on plongeait le sujet dans un alcool assez violent, et le gosse se taisait, il s'endormait. façon de faire taire, mais c'est terrible pour le point de vue du concupiscible, parce que c'est vraiment un détournement. On peut en prendre des quantités d'eau. C'est ça l'éducation. C'est réfléchir sur où vous ennoblissez le concupiscible et là vous endormez. Endormir le concupiscible, ce n'est pas l'éduquer. Le détourner, ce n'est pas l'éduquer. Et là, Freud nous donne des choses intéressantes parce qu'il nous montre comment on peut très bien faire des détournements du concupiscible. Et faire des détournements du concupiscible auront de beaucoup, seront des faux plis. Qui font que ce premier amour, puisque c'est l'amour passionnel, est orienté faussement. Alors, la vertu de tempérance, au contraire, réhabilite le concupiscible dans toute sa rectitude. La vertu de tempérance permet au concupiscible d'être plus lui-même. Il l'ennoblit. Et de regarder le bien immédiat. C'est le bien sensible immédiat. Bien ardu. C'est bien sensible immédiat. C'est celui-là que j'aime en premier lieu. Donc c'est en premier lieu l'aliment. En premier lieu l'aliment. Le concupiscible regarde en premier lieu l'animal. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer le concupiscible et la vertu de tempérance, qui va permettre de faire que le concupiscible ne va pas être un objet d'opposition vis-à-vis de la fin recherchée, mais que le concupiscible, au contraire, va coopérer à la modalité et à la contemplation. Mais c'est par le point de vue de la prudence. Mais alors ici, évidemment, comprenons bien que le concupiscible peut être détourné de façon très astucieuse par tout point de vue imaginaire. Encore plus qu'avec les racines. Le concupiscible est encore beaucoup plus, vous voyez, détourné par le point de vue de l'imaginaire. Et qui fait qu'à ce moment-là, vous voyez, alors ça devient très complexe, hein, à ce moment-là, c'est très difficile de retrouver l'appétit naturel. Il y a l'appétit naturel du concupiscible. Redécouvrir l'appétit naturel. C'est une chose belle de redécouvrir l'appétit naturel. Redécouvrir l'appétit naturel du concupiscible, de l'irascible, de l'intelligence, de la volonté. Mais je crois que c'est le rôle premier des vertus, désencombrer les appétits, pour redécouvrir l'appétit naturel à l'état parfait, le plus possible, l'état natif. Alors on redécouvre cette concupiscence qui est l'amour passion à l'égard d'un bien immédiat. Ça, c'est évident que c'est quelque chose qui peut être quelque chose de très grand. Redécouvrir ça. Alors, la tempérance. Et donc là, pour rééduquer ou éduquer mon concupiscible, que nous avons tous. Nous avons tous un concupiscible, nous avons tous un amour naturel vers le bien sensible, vers ce qui est l'aliment. Premièrement, là, ce bien sensible immédiat, ce bien sensible qui m'est donné comme le plus nécessaire. La tempérance va être, comme les anciens disaient, le frein. Je ne dis pas que la force est le frein, tandis que la tempérance, c'est le frein. C'est ce qui va empêcher l'appétit de concupiscence de se précipiter à toute vitesse. Gardez le gosse quand on lui présente son bibelot.